Merci, Keith. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 133 qu'on va lire ensemble maintenant. Donc, c'est la page 412 dans ces Bibles blanches qui sont sur les chaises. Page 412, le psaume 133. Un petit psaume, mais comme vous connaissez l'expression, petit mais costaud quand on veut bien s'y arrêter. Et j'aimerais aider ce matin à ce qu'on s'y arrête et qu'on explore un petit peu ce qu'il nous dit. Vous connaissez la devise de la nation française, n'est-ce pas ? Les hommes qui ont pensé ce texte, qui ont cherché à capter c'est quoi l'essence de la nation française qu'ils étaient en train de créer, si on peut dire, ont voulu inclure l'idée de fraternité, liberté, égalité, fraternité. Ça fait partie de la devise française. Est-ce que vous connaissez la devise de la Belgique, du royaume de Belgique ? L'union fait la force. Là aussi, des hommes ont voulu inclure dans ce qui fait l'essence de leur nation cette idée d'unité, d'union. Comment est-ce qu'on va garder des liens ensemble ? Et c'est normal, parce que dans nos cœurs, on est câblé d'une façon qu'on aspire à la fraternité, on aspire à de l'unité, on aspire à vivre des choses ensemble. C'est comme ça qu'on a été créé. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin, c'est de ça que ce psaume nous parle d'union, de communion qui unit les membres de la grande famille de Dieu, du peuple de Dieu. L'unité, c'est quelque chose d'important. On accomplit rarement des choses quand il y a un manque d'unité. Désolé, mauvais souvenir. Vous vous rappelez 2010, Afrique du Sud ? Lors de la Coupe du Monde, cette année-là, l'équipe de France montre peu d'unité, à la fois dans l'équipe et avec l'entraîneur. Et ce qui s'ensuit, c'est un fiasco. 2018, on voit une équipe plus unie, rassemblée autour d'un entraîneur. Et là, c'est le succès. Moi, je viens avec l'idée ce matin que vous êtes une église qui est unie. C'est ma perception que j'en ai. J'ai eu l'occasion de croiser, peut-être certains s'en souviennent, l'église ici. Et ce qu'on peut percevoir, c'est qu'il y a l'unité ici. C'est bon. Et donc, je viens vous exhorter pour rester dans cette unité et pour progresser encore. Et on a besoin de ce texte-là qu'on va lire ce matin. Il est nécessaire parce que certains s'en vont, d'autres arrivent. C'est ce que je découvre ici en région parisienne. Il y a toujours du mouvement. Comment est-ce qu'on va faire pour accueillir les nouveaux alors qu'on est attaché à ceux qui partent ? Comment on ne va pas tomber dans la nostalgie, mais vivre dans le temps que Dieu donne les relations fraternelles au sein de l'Église ? L'Église est toujours en mouvement. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Et donc l'Église locale, ici, vous, à la Garenne, comme nous, dans les quartiers d'Éternes, au 17e, nous devons être des lieux où l'on peut goûter et voir la bonté de Dieu dans nos relations. En plus de ça, juste je termine avec cette petite introduction, nous sommes, vous et moi, plongés dans une société très individualiste, dont on fait partie, donc c'est comme ça. Et on a besoin de cette parole pour nous aider à refléter la personne de Christ qui nous a aimés, qui a cherché à tisser du lien avec nous. Alors mes chers frères et sœurs, tout ça pour dire que le sujet de ce matin est à la fois sérieux et joyeux en même temps. Le texte qu'on va lire est un texte qui est écrit pour nous inspirer en premier, impacter notre imagination, éveiller les sentiments de nos cœurs. Il est plein d'images et de senteurs, on va juste faire la lecture dans un instant. Et comme le dit l'Écriture, la bonne volonté, elle est bonne que si elle nous conduit à des actions. Alors tout ça pour dire qu'on a besoin d'une grande vision de la façon dont Dieu nous engage à nous aimer les uns les autres, en vue d'agir ensuite, selon cet amour qu'il veut nous inspirer. Je vous invite à lire avec moi le psaume 133 maintenant. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu fait la grâce aux membres de son peuple d'expérimenter une nouvelle unité précieuse et sacrée qui contribue à faire d'eux un peuple sans pareil sur la surface de la terre. C'est une bénédiction éternelle qui doit nous réjouir. Voyez comme l'unité dans l'Église est bonne, précieuse et vivifiante. Et ne sous-estimons pas cette bénédiction qui vient de Dieu. Avant d'aller plus loin, juste prions quelques instants. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi, te demander que tu ouvres nos yeux à la beauté, à la bonté de l'unité, de la communion fraternelle, que tu convainc nos cœurs, que tu attires nos affections vers ces bonnes choses que tu as prévues comme une bénédiction pour nous. Aide-moi à expliquer ce psaume, aide-nous à le comprendre tous ensemble et à vivre de ta parole dans les prochains jours. Au nom de Jésus, amen. On va voir que l'unité est une bonne chose, on va voir que l'unité est sacrée, un cadeau de Dieu, et on va voir que l'unité est source de vie. Est-ce que vous avez goûté la bonté, le caractère bon, doux de l'unité ? Vous voyez, le psalmiste, il y a un cri du cœur pour commencer ce psaume, c'est David. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs !» de demeurer unis ensemble. Quand vous avez trouvé quelque chose de bon, quelque chose de vrai, quelque chose de beau qui vous fait vibrer à l'intérieur, c'est difficile quand vous n'avez personne à qui le partager, ni personne à qui dire merci. Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ? Et quand vous pouvez le partager avec une autre personne, alors ça multiplie encore votre joie. Par exemple, la petite Emma, qui est partie à la ferme cet été, et pour la première fois, elle touche un petit poussin. Et elle se tourne vers ses parents, elle dit « Oh, touche, comme c'est doux !» Elle veut partager cette découverte-là avec ceux qui sont autour d'elle. C'est papa qui est dans la voiture, et alors que tout le monde est peut-être plongé dans son casque en train d'écouter le MP3, et tout d'un coup, il s'écrie « Oh, regardez comme c'est beau !» Lui, il doit regarder au loin la route, pour être vigilant, et d'un coup, il voit un magnifique coucher de soleil, ou au détour d'une colline, c'est une plus grande montagne derrière. Oh, regardez, comme c'est beau. C'est comme deux amis qui sortent de la pâtisserie, et chacun a choisi un bon gâteau, et il y en a un qui croque en premier dans sa pâtisserie, il dit, oh là là, il faut absolument que tu goûtes ça, c'est trop bon. Notre psaume, ce matin, commence par un cri du cœur. Il nous invite à expérimenter la communion, la force des liens comme membres de la famille de Dieu. Ça peut être si touchant que notre cœur s'écrie « C'est bon !» Et je crois que Dieu a placé ce psaume dans sa parole pour que nous sachions, si jamais nous avions perdu ça de vue, que c'est bon d'être ensemble, d'être unis comme des frères et des sœurs autour de Dieu. D'être en plein accord, de chercher même comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble cette unité que Dieu nous permet de vivre maintenant. On lit un psaume que David a écrit. On n'a pas l'indication sur les circonstances précises qui a pu pousser David à écrire ce chant de louange. Mais on peut peut-être penser, c'est une spéculation, mais je vous invite à considérer quel pouvait être un moment peut-être dans la vie de David où il a pu écrire cela. À 37 ans, après 7 ans et 6 mois de règne sur la seule tribu de Juda, voilà que maintenant, les autres tribus arrivent auprès de David à Hébron. On lit ça dans 2 Samuel 5. On voit David qui voit venir les chefs de toutes les autres tribus le trouver. Et là, le peuple uni pour la première fois depuis bien bien longtemps le reconnaît roi et lui confère l'onction pour le faire roi sur tout Israël. Et puis, avec cette unité retrouvée, les voilà qui sont capables de chasser les ennemis, les Philistins qui viennent, qui ne sont pas contents de voir ce peuple uni à leurs frontières. Et encore peu après, Dieu accorde la victoire sur Jérusalem pour capturer Jérusalem et David en fait sa capitale. Et encore, peu de temps après, on est juste dans les chapitres 5 et 6 de 2 Samuel, voilà que David et amène le coffre de l'Alliance à Jérusalem. Un grand moment de joie, de célébration où David danse avec tout le peuple, il se réjouit. Parce que tout est combiné là. Tous les tribus sont ensemble, ils sont en sécurité dans le pays que Dieu leur a donné et le coffre de l'Alliance qui est le symbole de la présence même de Dieu au milieu de son peuple est là, au cœur du pays. Quelle joie quand c'est comme ça, tout le peuple uni autour de son Dieu. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 5 et 6. Et la petite notice, encore au début du psaume, nous donne une autre indication, juste pour continuer de comprendre combien c'est bon. Il nous dit que c'est un chant des montées. Alors ceux qui ont compilé le psautier, qui ont du coup utilisé ce psaume rédigé par David, qui l'ont rassemblé maintenant dans un livret, ont cru bon de mettre dans le psaume 120 à 134 une quinzaine de psaumes qui étaient chantés et lus à l'occasion des fêtes annuel en Israël, en particulier la fête des cabanes. Cette fête rappelait le séjour dans le désert, alors que le peuple était en route vers la terre promise. Et chaque année, le peuple allait célébrer à Jérusalem cette fête. Et après le retour de l'exil en Babylonie, ces chants avaient peut-être une force encore plus particulière. Et quelle expérience ça devait être pour les familles de toutes les tribus d'Israël en train de converger vers Jérusalem, en train de converger vers le temple pour ces festivités. Imaginez des familles entières qui s'entraident sur la route pour aller vers Jérusalem, qui se retrouvent pour 7 jours en train d'habiter dans des cabanes, et les enfants qui jouent ensemble, et les familles qui préparent des repas les uns pour les autres, et toute cette communion qui était intense pendant ce temps-là, et qui était pour la gloire de Dieu, pour célébrer la bonté que Dieu avait manifestée pour ce peuple. Parce que la raison d'être de cette unité, c'est qu'il y a un seul Dieu sauveur. On l'a rappelé encore ce matin. Un Dieu sauveur qui prend plaisir à rassembler son peuple et à demeurer au milieu de lui. Et si ce psaume a pu avoir un tel impact dans le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison pour nous aussi. Quelque part, ce chant de pèlerinage vers Jérusalem, c'est comme une métaphore. Nous aussi, nous sommes là où nous sommes, et nous aussi, nous sommes en route vers là où Dieu se trouve. Nous allons à la rencontre de Dieu. C'est comme une image de notre vie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire de la même manière que dans le psaume, « Oh, que c'est doux, que c'est agréable, quand l'Église, sous l'autorité de son roi, est rassemblée pour adorer le Dieu sauveur. » Que c'est doux, que c'est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble à la Garenne-Colombes et dans les environs. Ce doit être un constat qui nous pousse à être reconnaissants au Seigneur. « Merci Dieu, parce que j'ai des frères, j'ai des sœurs, je ne suis pas seul et je peux vivre avec intensité des liens qui nous unissent. » Vous avez remarqué qu'il y a un contraste entre la route qui reste à parcourir, c'est un champ des montées, il y a un mouvement, et la grâce qui nous est faite de demeurer ensemble, c'est bizarre. Alors dans cette route, on n'est pas tout seul, on est ensemble en train d'avancer ensemble. Que c'est agréable, que c'est doux. Et si c'est un constat de la part du psalmiste, c'est aussi une exhortation. Si c'est agréable et doux, cherchons alors cette bénédiction, ce bienfait de Dieu. Parce qu'il s'agit bien d'un cadeau avant tout. Regardez avec moi au verset 2, commencent des images. Il y a 2 images qui nous sont données, qui nous parlent de l'unité comme un cadeau, comme un don généreux et précieux de Dieu. Quelque chose de sacré. Voyez cette image au verset 2. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Ici, on trouve la mention d'Aaron, le premier grand prêtre, celui qui est le prototype de tous les grands prêtres qui l'ont suivi et dont Jésus est la réalité finale et parfaite. Alors, pour nous, c'est un peu bizarre peut-être, mais pour choisir pour consacrer ce grand prêtre, il fallait concocter une huile spéciale qui avait un usage réservé juste pour cela. Et elle était versée sur la tête d'Aaron et après de tous ses descendants pour les rendre sacrés, pour les rendre saints. Et donc tout ce qu'ils touchaient ensuite, tout ce qu'ils faisaient ensuite était marqué par cette onction et devait être saint. C'était une manière de consacrer une personne à un service particulier pour le Seigneur. Elle était, cette huile, fabriquée selon une recette indiquée par le Seigneur lui-même. Et on ne devait pas fabriquer la même pour un usage autre que celui de cette consécration du grand prêtre. Ceci dans un souci de préserver la distinction entre le sacré et le profane. Cette huile était sainte et rendait saints les personnes qui en avaient été loin. C'était des personnes choisies et ce n'était pas pour n'importe qui. La fabrication de cette huile par des personnes non autorisées était strictement interdite. On lit ça dans Exode au chapitre 30. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils, je cite le passage, et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service, dit Dieu, en tant que prêtre. Tu diras aux Israélites, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte au fil des générations. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui, et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la considérerez comme sainte. Toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de son peuple. Je pense que l'exhortation, alors, si le psalmiste nous dirige vers le regard, vers cette image, c'est que nous ne devons pas sous-estimer le caractère précieux et sacré de ce lien qui nous unit les uns aux autres. Ne méprisons pas comme si c'était une petite chose, un petit plus agréable pour notre vie chrétienne, un petit à côté qui fait toujours plaisir. Alors que pour Dieu, c'est une manière de nous consacrer comme un peuple qui lui appartient, qui nous différencie de tous les autres sur toute la surface de la planète. Et voyez le côté généreux et abondant du cadeau de Dieu. Ça coule sur la tête d'Aaron, mais ça ne reste pas juste sur le haut de son crâne. Ça descend même jusque sur sa barbe et ça descend même jusque sur le bord de ses vêtements. Vous voyez, le côté unique et sacré, ça ne veut pas dire étriqué et avare. Au contraire, Dieu se plaît à ce que cette consécration se répande largement. D'ailleurs, ce n'était pas juste l'huile qui est descendue sur tous les vêtements d'Aaron, mais son odeur aussi. Imaginez cette odeur qui n'est pas restée juste confinée autour de la personne d'Aaron, mais qui devait embaumer tous ceux qui étaient autour de lui. Peut-être pour nous, c'est un peu bizarre. Alors, vous excuserez peut-être l'image, mais pour essayer de comprendre ça, peut-être cet été, vous avez eu l'occasion de faire des barbecues. Et si ce matin, il y avait une petite odeur de viande grillée là, qui venait chatouiller nos papilles, c'est pas juste que vous commencerez à avoir faim peut-être, mais vous vous souviendrez de tous ces bons souvenirs que peut-être vous avez passés cet été avec des amis ou avec la famille, détendus en vacances. Comme c'était bon, comme c'était doux, comme c'était agréable. Voyez, pour le peuple d'Israël, en se souvenant de cette image, ils avaient comme les odeurs qui leur revenaient et puis tout ce souvenir qui montait à leur esprit. Voyez encore combien c'est un don qui vient de Dieu et un don généreux. La deuxième image qui nous est proposée, qui est au début du verset 3, dit « c'est comme ». La rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. L'Hermon, c'est une montagne assez haute, plus de 2800 mètres, qui se situe au nord du pays d'Israël. Il y a de la neige à son sommet. Et c'est une réserve essentielle d'eau potable pour la région. Et bien sûr, sur les flancs de cette montagne, il y a de la rosée fraîche qui descend sur les pentes. Peut-être des ruisseaux qui se forment sur cette montagne. Et ça irrigue. Et donc c'est une région où la culture est facile et luxuriante. Il y a plein de bons fruits qui peuvent sortir sur les pentes du mont Hermon. Et puis, c'est presque une impossibilité géographique que toute cette rosée descende jusque tout en bas sur le mont Sion. Mais c'est juste pour comprendre que Dieu veut bénir dans une totalité l'ensemble de son pays, l'ensemble de son peuple, du nord au sud, de Hermon, le plus haut au nord que vous pouvez aller, jusqu'à Sion. Des extrémités du pays jusqu'au centre du pays. Sion, c'est là où se trouvait Jérusalem et le temple, où la présence de Dieu était la plus claire et manifeste. Vous vous souvenez peut-être que dans le contrat qui unissait Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, une des bénédictions promises par Dieu, c'est la pluie en sa saison, la rosée qui viendrait pour fertiliser les terres, pour que le peuple manque jamais de rien, mais puisse bénéficier de toute cette fertilité. Voyez combien c'est sacré, voyez combien c'est précieux, combien c'est vivifiant. Et vous avez remarqué, c'est ma dernière remarque sur ces images, combien il y a cette idée de descendre. Est-ce qu'on peut fabriquer une unité pareille tout seul ? Non. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. C'est bien Dieu qui est la source de cette bénédiction. C'est bien de lui que ça peut venir, cette communion, ces liens retrouvés. Le mouvement est descendant, pas montant. On ne peut pas fabriquer la communion fraternelle. Une dernière pensée, avant d'arriver peut-être à des choses un peu plus pratiques pour nous ici, en région parisienne. L'unité, elle est vivifiante, elle est source de vie. Regardez encore la fin du verset 3. En effet, alors quand le psalmiste a décrit tout ça, qu'il a essayé à réveiller nos émotions, faire vibrer notre cœur, qu'il nous donne des images pour comprendre tout ça, il dit « en effet », il y a une sorte de conclusion. En effet, c'est là, quand des frères et des sœurs sont unis ensemble, à ce moment-là, l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est quelque chose que Dieu commande. C'est quelque chose que Dieu souverainement a décidé. Voilà, quand mes enfants sont unis, je décide de faire du bien, je décide de bénir, je décide de donner la vie pour l'éternité. Waouh ! Et on doit se rappeler alors ici que ça a malheureusement été le projet de Dieu dès le départ, mais depuis la chute en Genèse 3, on se réalise, mais ça c'est plus naturel pour nous. Alors, entre frères, d'être unis, frères ou sœurs, dans l'humanité, d'être unis pour le service de Dieu. On se rappelle qu'au commencement, l'unité est bonne. Quand Dieu a créé le monde et qu'il y avait cet embryon de communauté, un homme, une femme, qui devait se multiplier et couvrir la terre entière, c'était très bon. Dieu a dit, oh, que c'est bon, que c'est agréable, que c'est doux. Il a proclamé ça, mais le péché a gâché tout cela. En suivant les conseils mal intentionnés et pervers du diable dans le jardin, Adam et Ève ont commencé à redéfinir, selon leurs critères, ce qui était bon ou non. Est-ce que c'est bon pour moi ? Exit mon frère, exit ma sœur, exit Dieu. Parce que maintenant, ça doit être moi au centre qui décide si c'est bon ou pas, si ça me plaît ou ça ne plaît pas, si ça m'est agréable à mes yeux, à moi, ou pas. Ils ont cessé de croire et de reconnaître ce que Dieu avait donné et ordonné comme bon. Et ce n'est pas ensemble qu'ils l'ont fait, mais chacun de leur côté aussi. C'était la fin de l'unité dès le début de cette rébellion. Et à leur suite, nous n'avons fait que persister, nous aussi, dans cette même rébellion que la Bible appelle le péché. Voyez juste leurs descendants, les deux premiers frères qui sont mentionnés dans la Bible, qui sont-ils ? Cain et Abel. Et un finit par tuer l'autre. Voyez de même les fils de David, tous fils de roi qu'ils étaient, c'était difficile de vivre dans l'unité. Et ils ne l'ont pas fait, ils ont vécu sans unité en amenant beaucoup de tristesse. Pensez à Amnon et Absalom, à Adonia et Salomon. Alors, oui, certainement, il ne faut rien de moins que l'intervention miraculeuse de Dieu pour rétablir un véritable lien fraternel entre les membres de son peuple. Et nous avons un grand prêtre, supérieur Aaron, nous dit la lettre aux Hébreux, capable d'effacer une fois pour toutes notre dette vis-à-vis de Dieu, mais plus qu'une dette qui doit être effacée par lui, nous pouvons recevoir un cœur nouveau. Ça, c'est la grande nouveauté. Nous pouvons recevoir un cœur nouveau qui est rendu capable de reconnaître maintenant et de désirer ce que Dieu estime bon. On rechange de nouveau le programme intérieur. Alors que la chute avait tout chamboulé, en Jésus, on peut être de nouveau satisfait avec ce que Dieu estime bon. Et il dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer unis ensemble. Et ce grand prêtre, parce que Dieu est généreux, on l'a vu dans les images, c'est pas juste lui qui a reçu l'onction, puis ce serait resté juste sur sa tête à lui, mais parce que Dieu est généreux, au travers de lui, cette onction nous a atteints, nous aussi. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'être en communion avec le Père et le Fils, et les uns avec les autres. Et Dieu nous dit, il nous le verse dans nos cœurs. Romains 5 nous dit ça. Dieu abondamment verse son esprit en nous pour que nous soyons les uns les autres de plus en plus attirés, désireux, créatifs pour trouver comment on peut se soutenir, s'aimer les uns les autres. Le passage nous a parlé du roi David. Nous avons un roi aussi qui nous rassemble, un roi bon, tellement bon que pour briser l'indifférence de son peuple et le rassembler, il a accepté de venir en personne. Nous parler de la bonté d'être unis les uns avec les autres. Et pour que ce ne serait pas une lettre morte, si on peut dire comme ça, par son sacrifice. Il s'est donné sacrificiellement à la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. Par son sacrifice, nous pouvons être de nouveau en lien les uns avec les autres, unis à Dieu, par cette même foi. Et ce roi nous a commandé, au moment où il achevait cette œuvre en notre faveur, je cite Jean 13, versets 34 et 35. Ce roi Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est nouveau parce que maintenant on va être rendu capable de le vivre, ce commandement, grâce à son sacrifice, quelques heures après qu'il ait prononcé ces paroles. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » C'est aussi nouveau parce que maintenant nous voyons un modèle parfait de qu'est-ce que ça veut dire aimer un frère, aimer une sœur. Parce que notre roi nous a aimés d'une façon absolument incroyable. Et nous devons fixer nos regards sur lui si nous voulons vivre ce psaume 133, ici à la Garenne-Colombe, ou au terme dans le 17e. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et voyez, comme Dieu aime être généreux, aime l'abondance, parce que Jésus continue en disant « C'est à ceux-là que tous en dehors de cette communion déjà établie avec le Fils, avec le Père, par le Saint-Esprit, les personnes qui aujourd'hui ne connaissent peut-être pas Dieu, c'est à ceux-là que tous ceux-là reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà une bénédiction qui descend d'en haut, qui est apportée par notre grand prêtre, notre roi suprême, Jésus. Elle est si généreuse qu'elle aura un impact même sur le monde autour de nous. Tous ceux qui verront l'Église rassemblée se diront « Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est finalement agréable d'être unis ensemble comme ils le sont. Quel est leur secret ? Je veux savoir. » Peut-être ce matin, vous êtes là en train d'enquêter, justement en train de vous demander « Qu'est-ce que c'est ?» Les changements que l'Évangile, cette bonne nouvelle, apporte. Qu'est-ce que la croix, à quoi ça sert ? Une des bénédictions qui vient avec, c'est des liens retrouvés avec des frères et des sœurs. Nous sommes appelés, ça vous dira peut-être quelque chose, à être une nation sainte. Appelés à déclarer les hauts faits de Dieu. Et parmi ceux-ci, le fait qu'il a rassemblé des gens de toutes les nations, de toutes conditions, de toutes langues, de tout arrière-plan social, culturel, tout ce que vous voulez, mais qui demeurent ensemble dans l'unité, chacun mettant au service des autres les dons qu'il a reçus, et démontrant la sagesse immense de Dieu aux yeux même des puissances spirituelles invisibles. Conclue avec quelques idées, j'espère que je ne dépasse pas mon temps, j'ai un peu perdu le chrono, mais Juste quelques idées pratiques. Je l'ai dit au début, et vous vous en rendez bien compte, nous sommes dans une société plutôt individualiste. Juste en arrivant à Paris, ça m'arrivait moins souvent à Cavaillon quand même, mais j'ai cherché à demander ma route à quelqu'un. J'étais près du boulevard Pereire, là, et je cherchais un arrêt de bus. Ben, j'ai eu du mal, juste à croiser le regard de quelqu'un, parce que tous étaient rivés à leur téléphone tout en marchant au milieu de la circulation, ce que j'estime assez dangereux, mais c'était juste difficile d'être en contact avec quelqu'un, ou alors avec les écouteurs, et on avait du mal à déranger un peu les gens. Alors, il faut qu'on soit conscient de ça, il faut que on décide de vivre alors des choses nouvelles ensemble. Et bien sûr, ça veut dire des choses très concrètes. Si un de nous met un genou par terre, peut-être fatigué du voyage, cette vie sur cette terre marquée par le péché, peut-être blessé par différentes circonstances, c'est doux et c'est bon quand on est ensemble qu'on peut le remarquer et qu'on va apporter son aide, qu'on cherche à être quelqu'un qui va encourager un frère, une sœur. La vie dans ce monde marqué par le péché est déjà suffisamment éprouvante, non ? Serrons-nous les coudes. Acceptons de donner notre aide, de tisser des liens, d'investir peut-être du temps et de l'effort pour construire des bonnes relations. Si le psaume dit « c'est bon d'être ensemble », c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être ensemble. Et donc très pratiquement, ça veut dire que dans nos agendas, on doit mettre des priorités pour vivre des choses ensemble. Alors, bien sûr, le dimanche matin, c'est un de ces lieux-là. J'imagine, je pense, vous avez des moments pour vous retrouver en semaine. C'est aussi des moments tout autant importants pour vivre cette communion fraternelle. Mais l'hospitalité qu'on peut exercer en dehors de toutes ces choses prévues dans le planning de l'Église, mais parce qu'on est frères et sœurs, on se soucie de ce qui se passe pour les uns les autres, on va alors prendre du temps pour ça. Peut-être c'est juste simplement à la fin du culte d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas et dire faire connaissance. Ou essayer d'amener un peu nos discussions un peu plus profondément à la fin du culte. Comment est-ce que je peux t'aider ? Est-ce qu'il y a quelque chose cette semaine que je peux faire pour toi ? Est-ce que je peux prier pour toi ? Et si on doit accepter peut-être de donner de l'aide, il faut dire aussi acceptons de recevoir cette aide, de se laisser connaître, de se laisser approcher, de favoriser tous ensemble des bons échanges. Les rassemblements des chrétiens servent à vivre cette unité entre frères. Quelqu'un qui ne voit pas l'utilité de passer du temps avec des autres, qui peut dire « c'est moi et Dieu », ce n'est pas vraiment un bon signe, il y a des choses encore dans lesquelles il faut progresser. Si vous êtes dans cette situation, je vous en prie, écoutez bien attentivement ce psaume 133. C'est bon, dit Dieu, pour des frères et des sœurs, de demeurer unis ensemble. Mais plus que toutes ces choses pratiques, ou si on veut vivre vraiment intensément ces choses pratiques, il faut qu'on soit convaincu par la parole de Dieu que l'unité est bonne. Est-ce que vous croyez que Dieu veut envoyer sa bénédiction là, quand son peuple est uni. Peut-être c'est utile de dire aussi, ça ne va pas être un fleuve tranquille. Il y a des restes du péché en nous, on va avoir des luttes. On peut être déçu, vous serez peut-être déçu un jour par moi, désolé. Mais parce que je suis pécheur, parce que c'est encore ma lutte. Mais si on garde en vue que là où Dieu nous emmène, c'est une nouvelle création. C'est un endroit débarrassé de toute lutte extérieure et intérieure, où, rassemblé autour de notre roi, on se tiendra pour l'éternité. Alors ça nous encourage à viser toujours plus loin et à dépasser les peut-être déceptions qui pourront arriver. Plus que de donner son temps ou son énergie pour le service, qui sont des choses très concrètes à faire, nous devons être renouvelés dans notre amour, à l'image de celui de Jésus. C'est ça qui est nécessaire pour nous, et c'est ça que ce psaume est là pour nous rappeler que c'est bon, que c'est quelque chose à rechercher. Je voudrais terminer avec une petite exhortation de Romains 15, 5, une sorte de prière que je fais pour vous, ici à la Garenne. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord, les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La partition du psaume 133, qui était au départ un chant, elle est perdue à toujours. Dans un sens, c'est dommage, mais c'est peut-être la possibilité pour vous, Église de la Garenne, et avec nous, en des temps peut-être moins réguliers à l'Église des Ternes, de trouver un chant renouvelé, un chant nouveau, avec des relations dans la communauté, et donc localement pour vous ici à la Garenne, qui sont une célébration renouvelée de ce psaume 133, de la beauté de l'unité entre frères et sœurs, du caractère agréable des liens qui nous unissent, comme un cadeau donné par Dieu, là où il veut donner la bénédiction, la vie pour toujours. Que Dieu vous bénisse.